This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$10.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde ce soir avec, pour la rédaction vietnamienne, Tran A Tran.
Tiens, Philippe.
Car le gouvernement du Vietnam autorise l'usage des monnaies chinoises et vietnamiennes dans la zone transfrontalière. Christina Okello, de la rédaction d'anglais.
Good evening.
À propos du retour tumultueux de Bobi Wine en Ouganda. Et puis Miguel Martins, de la rédaction lusophone.
Hola.
Car les relations entre l'Angola et le Portugal retrouvent des couleurs. On verra cela tout à l'heure. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir ce sommet informel qui a réuni les dirigeants de l'Union européenne à Salzbourg, en Autriche. La première ministre britannique Theresa May a été humiliée par les dirigeants européens qui l'ont appelée à revoir sa copie sur le Brexit. Là aussi, on verra ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, ce qui a été dit sur la question migratoire. Pour faire court, l'Union européenne veut se rapprocher de l'Égypte pour contrer les arrivées de migrants depuis l'Afrique, mais reste divisée sur la répartition des réfugiés entre pays membres. Divergence aussi sur les modalités du renforcement de sa force de garde frontière. Mais pour le Premier ministre portugais, ce sommet a permis de résoudre la crise migratoire, Miguel.
En effet, Philippe, par optimisme béat ou pas, je vous propose donc d'écouter le bilan d'Antonio Costa depuis l'Autriche.
Je pense que c'est un signal de que tous sont disponibles pour une abordage pragmatique.
Que vous a dit le chef de l'exécutif portugais?
Antonio Costa disait que tout le monde autour de la table s'était montré disposé à une approche pragmatique du sujet. Il nous faut un système commun à tous, et ce, en vue de gérer les flux migratoires. Tout le monde doit y participer avec des engagements divers. Il nous faut plus d'efficacité afin d'éviter de devoir s'appeler tous les uns et les autres pour savoir comment répondre aux crises que nous devons affronter. Le Premier ministre portugais rappelle que, parce qu'il s'agissait là d'un sommet informel, et que celui-ci se serait beaucoup mieux déroulé que le dernier Conseil européen.
Et puisque tout cela se passait à Salzbourg, en Autriche, comme le fameux film La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music, sorti en 65 de l'américain Robert Wise, bien Miguel, est-ce que l'esprit de ce film a servi à rapprocher les Européens?
Voilà ce que laisse penser le Premier ministre portugais, tout en gardant les pieds sur terre, sur les nombreux écueils, sur le chemin du vieux continent. On n'est peut-être pas aussi soudé que la famille von Trump, conclut Antonio Costa, la famille du film donc qui réussissait, elle, à prendre la fuite vers la Suisse tous ensemble.
Tran A Tran, comment votre rédaction à vous a présenté cette querelle européenne, querelle qui est à la fois très éloignée géographiquement et très loin des préoccupations de vos éditeurs vietnamiens?
Eh ben, détrompez-vous, Philippe, parce que le Vietnam est un peuple migratoire. C'est une immigration aujourd'hui voulue, mais autrefois forcée. Et donc, ça veut dire aussi que c'est un sujet très intéressant pour nos auditeurs. Mais il est vrai que concernant l'Europe et les désaccords profonds entre les pays membres de l'Union européenne, notre rédaction a dû mettre l'accent d'abord sur l'aspect pédagogique pour aider nos auditeurs à comprendre. D'abord, il faut dire qu'il y a la position des uns et des autres, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le groupe Visegrad qui regroupe les États prêts à aider financièrement peut-être les pays terres d'accueil, mais qui en revanche ne veulent absolument pas recevoir de migrants. Il s'agit du cas de la Hongrie, de la Slovaquie, Pologne et Tchéquie. Et de l'autre côté, vous avez le groupe comprenant notamment la France et l'Allemagne qui rassemble les pays qui militent pour que tout le monde les accueille. Il y a donc un schisme entre l'Est et l'Ouest.
Trana, tout devient encore plus compliqué à 9 mois des élections européennes. Hein.
Oui, effectivement, après les élections récentes en Autriche et Italie, les forces populistes se sont poussées des ailes. Surtout en Italie où on a Matteo Salvini qui est en train de changer la donne. Mais la montée des forces populistes n'explique pas tout et elle surfe sur les émotions, sur le sentiment de la peur. Mais cette crise migratoire est avant tout une crise identitaire. Et autre chose aussi, c'est si l'Union européenne depuis 3 ans patine sur la question migratoire, c'est peut-être aussi qu'elle est en panne politique pour ne pas pouvoir parvenir à des solutions pérennes.
Autre dossier de cette rencontre de Salzbourg, Christina Okello, c'est donc le Brexit qui a fait là-dessus davantage consensus que la question migratoire.
Oui, qui l'aurait cru, mais c'est exact, Philippe. Les 27 pays membres ont rejeté en bloc le plan dit de Chequers de Theresa May. Le président français Emmanuel Macron juge ses propositions inacceptables en l'état, alors que le président du Conseil européen Donald Tusk va plus loin encore. Le projet de la première ministre britannique ne fonctionnera pas. Côté Outre-Manche, les critiques sont encore plus sévères. La presse britannique dit franchement que le plan Chequers est mort. Le Brexit est donc dans l'impasse, mais au moins tout le monde est d'accord là-dessus. C'est le moins qu'on puisse dire sur l'immigration. Le compte à rebours est bien sûr déclenché. Il ne reste que 6 mois avant Brexit et l'Europe s'inquiète du manque de progrès, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Et le chancelier autrichien, hôte de ce sommet, a estimé qu'un Brexit sans accord serait néfaste pour le continent tout comme pour le Royaume-Uni.
Justement, Chequers, ça veut dire quoi?
En fait, c'est le projet de Theresa May pour sortir de l'Union européenne.
Oui, mais la traduction du mot Chequers.
Chequers, en fait, c'est comme un jeu d'échecs, en fait.
D'accord.
Voilà, c'est comme un jeu d'échecs.
En tout cas, la position de Theresa May semble extrêmement difficile, Christina, d'autant plus que son plan, Chequers, donc, est rejeté également par l'aile dure de son parti, le Parti conservateur.
Tout à fait, Philippe. Et pour Keir Starmer, le secrétaire adjoint du Parti travailliste au Brexit, Theresa May va avoir du mal à sortir de son impasse. Écoutons un extrait de son discours.
The Prime Minister's got herself into an impossible position with Chequers. It's clear that the EU are not going to.
Keir Starmer est donc le secrétaire adjoint du Parti travailliste. Que dit-il à propos de ce Brexit?
Donc il dit que Theresa May s'est tiré une balle dans le pied avec son plan
irréalisable.
Merci, son plan impossible de Chequers que personne ne peut accepter, ni son parti, ni l'Union européenne. Il dit que Theresa May va devoir travailler d'arrache-pied pour se rapprocher du point de vue des autres, mais qu'elle a un talent d'âge. C'est hard brexiteur, l'aïeux de son parti, qui n'acceptera aucune concession envers l'Union européenne. Mais Theresa May pourra néanmoins tirer un seul réconfort dans les propos du chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui dit que l'Europe n'est pas en guerre avec la Grande-Bretagne, mais comme deux hérissons qui s'aiment, il faut faire attention à ne pas s'égratigner avec des épines.
De l'amour au divorce, donc, car la question migratoire a bel et bien creusé l'écart entre les dirigeants européens.
Oui, on a entendu la France, tout comme l'Allemagne, a haussé le ton contre ces pays de l'Est qui veulent avoir tous les avantages de l'Union européenne, sont des devoirs, des pays comme la Hongrie et la Pologne. Et les résultats, on l'a bien vu, ce sont des campements surchargés comme à Lesbos, cette île grecque, où 9000 migrants sont entassés, alors que le lieu est censé accueillir seulement 3000 d'entre eux. Et pour Sophie McCann, directeure de Médecins Sans Frontières en Grèce, la politique migratoire de l'Europe a provoqué un désastre humanitaire. Écoutons-la.
The conditions inside are completely dire. There's raw sewage running down pretty much everywhere.
Quelles sont ces explications?
Donc elle raconte comment les conditions sont déplorables. Les migrants vivent encore dans des tentes usées depuis l'été. Il y a un manque d'hygiène et les gens, surtout les femmes, sont exposés à des violences sexuelles. Il y a des cas de viol sur les enfants et les cas de maladies mentales sont en augmentation. L'Europe a certes réussi à endiguer les flux migratoires depuis son pic il y a 2 ans, mais comme rappelle Sophie McCann, le coût humain de ces solutions est très élevé, trop élevé.
Voilà, Brexit et questions migratoires, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sommet de Salzbourg avec le regard croisé des rédactions de RFI.
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. La rédaction vietnamienne, par exemple, s'est particulièrement attachée à la circulaire de la Banque centrale qui officiellement autorise une double circulation des monnaies chinoises et vietnamiennes, cela dans la zone frontalière. Tran à Tran, de quoi s'agit-il et pourquoi cette mesure suscite-t-elle de vives polémiques?
C'est très simple. En fait, fin août, la Banque centrale vietnamienne, dans un circulaire, a officiellement autorisé donc la transition soit du dong, c'est-à-dire la monnaie vietnamienne, soit du yuan, la monnaie chinoise, dans les zones de frontières. C'est un circulaire qui prend effet à partir du 12 octobre prochain. Ce circulaire vient donc en fait compléter un décret gouvernemental qui date depuis 2004, donc ça fait un petit moment déjà. L'objectif est tout simplement de faciliter les échanges dans cette zone. Il faut savoir qu'il y a 7 provinces du Vietnam qui touchent la frontière avec la Chine et le commerce entre deux pays s'élève à 66 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. La Chine exporte deux fois plus vers le Vietnam. Et de fait, donc, cette pratique de double circulation des monnaies existe déjà et concerne tous les pays ayant une frontière avec le Vietnam. Écoutons notre invité, l'économiste Phạm Chi Lan à Hanoi. Elle dit ce circulaire inclut également tous les pays voisins ayant une frontière avec le Vietnam, à savoir le Cambodge, le Laos et la Chine. Les champs d'application juridique y sont clairement définis pour éviter une généralisation du yuan sur le reste de l'économie du Vietnam.
Alors comment expliquer cette méfiance à l'égard du yuan alors que la Chine, vous le disiez, hein, est le principal partenaire économique du Vietnam?
Alors il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre cela. D'abord, le doute réside dans l'application du décret circulaire et du circulaire. La question, c'est est-ce que les documents officiels sont bien définis, mais est-ce que l'application le sera ou pas? Le deuxième élément de méfiance, c'est il y a une certaine inquiétude quant à la souveraineté de la politique monétaire du Vietnam vis-à-vis de son grand voisin, la Chine. Et troisièmement, sur nos antennes, l'économiste de Hanoï elle partage le point de vue qui consiste à dire que cette double circulation des monnaies va creuser davantage le déficit commercial du Vietnam par rapport à la Chine.
Alors, Madame Pham est encore plus précise. Hein.
Oui, elle a nommé trois points. La fiabilité des chiffres officiels. Les échanges transfrontaliers sont souvent hors de contrôle des deux autorités, des deux côtés de la frontière. Et la méfiance est suscitée depuis le débat des zones économiques spéciales, sans compter que le sentiment anti-chinois lié au conflit territorial avec la Chine concernant une partie des îlots en mer de Chine explique que l'opinion vietnamienne est très méfiante à cela.
Et vous en parlerez bien sûr le 12 octobre, c'est ça, hein, le jour où officiellement il y aura cette double circulation des monnaies à la frontière entre le Vietnam et la Chine. C'était Train à Train de la rédaction vietnamienne. C'est une bataille de génération à laquelle on assiste en Ouganda. Ce pays anglophone de l'Afrique de l'Est, dirigé depuis plus de 30 ans par un seul et même homme, vit aujourd'hui un espoir de changement, porté par le chanteur et député Robert Kyagulani, plus connu sous son nom d'artiste Bobby Wine. Il devient le porte-parole de la jeunesse, Christina Okello. Il s'est imposé en tout cas comme l'un des principaux détracteurs du vieux président Museveni.
Oui. Oui, Philippe, Bobby Wine a su fédérer des jeunes grâce à sa musique contre l'injustice sociale et la pauvreté. La musique comme cette chanson Freedom, la liberté qui joue derrière moi, qui a valu à Wine le surnom de son excellence de président de ghetto. Écoute, on continue à écouter le morceau. Donc face à ces charismes de ce président de ghetto branché qui parle un langage commun avec les jeunes, le président Yoweri Museveni semble incapable de répondre aux défis. Dans un récent discours par exemple, le chef de l'État s'est adressé à son auditoire en le qualifiant de bazoukoulou, c'est ce qui signifie petits-enfants, signe véritablement d'un décalage générationnel qui est en train de se creuser au jour le jour en Ouganda. Aujourd'hui les jeunes comme moi veulent du changement. Ils ont connu que Museveni comme président depuis 1986.
Alors bien sûr, ça fait grincer les vieux, le vieux monde en tout cas, on va dire ça
oui,
comme ça.
Oui, tout à fait. Il suffit de voir la manière dont le régime a accueilli Bobby Wine cette semaine pour le constater. Il a été accueilli avec un fort dispositif de sécurité dans les rues de Kampala, la capitale, jusqu'à l'aéroport de Entebbe. Il a été emmené et escorté dans un véhicule blindé jusqu'à son domicile. Et pour Norbert Mao, président du Parti démocrate et ancien candidat à la présidentielle, c'est un signe que l'État a peur de Bobby Wine. Écoutons-le.
We have a regime which is extremely insecure.
Que dit Nomer Mao?
Il dit que le régime est paranoïaque. Comment peut-il faire tout son possible pour empêcher les gens d'accueillir Bobi Wine? Et il dit que Wine incarne la soif du changement et c'est pour ça que le régime a peur de lui. Mao décrit également cette image d'un goulot d'étranglement en parlant de conflit générationnel. Il dit que l'entêtement de Museveni à vouloir s'accrocher au pouvoir crée un embouteillage et empêche les jeunes d'avancer.
Et côté gouvernement?
Côté gouvernement, c'est tout le contraire. Il n'y a aucun divorce entre Museveni et les jeunes, estime Omodo Omodo. C'est l'ancien conseiller de la jeunesse au sein du parti au pouvoir, la NRM. Écoutons-le.
It is not for me to be calling myself a ghetto youth. Yet I am active.
Donc Omodo dit que c'est bien beau de s'en appeler à la jeunesse du ghetto alors que l'État a restauré la paix après des années de guerre civile par l'armée de résistance du Seigneur. Les jeunes aujourd'hui sont libres de travailler et d'aspirer à une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur famille. Il n'empêche, cette rhétorique selon laquelle Museveni est le sauveur de la nation a atteint ses limites face à la réalité dure pour certains. Le chômage s'élève à plus de 80% selon la Banque mondiale et touche principalement les jeunes. Museveni, la semaine dernière, s'est déplacé dans un bidonville en banlieue pour rencontrer cette jeunesse qui se sent perdue par rapport à son avenir. Et il a donné de l'argent. Or, comme disent des observateurs, cette forme de patronage semble revenue au passé.
Voilà, Christina Okello de la rédaction en anglais à propos de ce qui se passe, de ce changement de génération en Ouganda. L'Angola était le joyau de la couronne du Portugal en Afrique pendant la période coloniale. Or, depuis plusieurs années, Luanda avait tourné le dos ostensiblement à Lisbonne. Or, tout a une fin, Miguel Martins, puisque cette semaine, cette longue brouille a peut-être pris fin.
C'est du moins, Philippe, ce que disent les responsables politiques des deux pays, et ce à la suite de la première visite en Angola d'un premier ministre portugais depuis 7 ans. C'était donc cette semaine. Cependant, la donne a considérablement changé. Ces dernières années, l'Angola a négocié un plan de financement, c'était le mois dernier avec le FMI. Par ailleurs, la dégringolade des cours du pétrole a considérablement pesé sur les importations, y compris de produits portugais traditionnellement présents dans cette ancienne colonie. L'ancienne métropole ne fait donc plus partie du coup des partenaires stratégiques de Luanda.
En un mot, Miguel, quelle est la cause principale de cette longue brouille entre donc l'Angola et le Portugal?
C'est surtout, Philippe, le fait que la justice portugaise est enquêtée, et ce depuis 2013, sur des personnalités angolaises de haut rang, dont Manuel Vicente, ancien vice-président, qui a été également le responsable de la Sonangol, la toute puissante compagnie pétrolière. Celui-ci était notamment poursuivi pour des soupçons de corruption d'un magistrat portugais. Les autorités de Lisbonne ont toujours refusé de remettre le dossier à la justice angolaise jusqu'à cet été, où la cour d'appel de la capitale portugaise a fini par céder à l'exécution. De Luanda.
Et puis il y a autre chose, c'est le fait que nombre de personnalités angolaises ont réalisé de lourds investissements au Portugal.
Et voilà, et pour surmonter ce climat délétère qui a fini par s'installer, Luanda avait toujours posé comme condition que ce dossier soit remis par les Portugais à la justice angolaise. Le nouveau président s'était dit offensé par le fait que les Portugais ne faisaient pas confiance à la justice angolaise. Lors de son discours d'investiture, Lourenço avait tenu à faire une liste exhaustive des partenaires principaux. Évidemment, le Portugal n'y figurait pas, alors que le président de l'ancienne métropole s'y était déplacé pour l'occasion. Le Portugal se faisait épingler depuis des années par l'étatique journal d'Angola, alors qu'il s'agit là d'un pays stratégique pour l'économie de Lisbonne. Puis il y a 2 semaines, nous apprenions que le président angolais ira au Portugal en novembre. Il a donc accueilli cette semaine le premier ministre portugais.
Et quelle a été la teneur donc de ce nouveau discours des responsables angolais et portugais lors de cette rencontre tant de fois reportée?
Des accords ont été paraffés entre les médias d'État, par exemple, de nouvelles lignes de crédit ont été annoncées et des mesures fiscales sont plus à attendre. On écoute un extrait de l'intervention du président angolais João Lourenço à cette occasion.
Alors le son n'est pas très bon, résumé ce qu'il a pu dire.
Voilà, Lourenço a tenu à parler de respect entre deux États indépendants et souverains. Pour lui, le Portugal pourrait jouer un rôle prépondérant en Angola grâce à sa profonde connaissance du pays. Les investissements portugais directs y seraient donc les bienvenus, notamment les industries dites de transformation, l'agriculture ou encore l'installation de petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, le Premier ministre portugais dit qu'il est temps maintenant de se concentrer sur l'avenir.
En un mot, comment est-ce que le Premier ministre portugais a vécu cette visite avec un tel contentieux?
Voilà, c'est vrai que longtemps, les Angolais faisaient la morale aux Portugais à la suite de cette longue crise bilatérale. Là, Antonio Costa, le Premier ministre portugais, dit que les deux pays ont travaillé afin de créer un certain nombre d'instruments en vue de renforcer la confiance des agents économiques des deux pays.
Voilà, entre autres, ce dont il a été question sur l'antenne lusophone de Radio France Internationale cette semaine. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'essentiel de ce qui vient de se passer sur la planète.